crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons une peinture familièrement intitulée La Barque de Dante ou parfois Dante et Virgile aux Enfers, une huile sur toile d'1,89 m par 2,41 m, réalisée par Eugène Delacroix en 1822. Elle est conservée au musée du Louvre. L'œuvre montre le poète italien Dante Alighieri qui, dans sa Divine Comédie, raconte sa visite dans l'enfer guidée par Virgile.
Léger comme une flèche est-elle dans l'espace. Échappée à la corde, elle fend l'air et passe. J'aperçus dans l'instant un esquif tout petit qui glissait sur les eaux comme à notre poursuite. Par un seul nautonnier, la barque était conduite. Il s'écriait « Enfin, tu viens, traître maudit, Phlégias !»« Phlégias !» dit aussitôt Virgile, « Tais-toi !» Pour cette fois, ta rage est inutile. Tu ne nous auras plus, sitôt les temps passés. Tel un homme soudain, trompé par son attente, cache au fond de son cœur le fiel qui le tourmente. Tel Phlégias, du coup secrètement blessé. Mon guide descendit alors dans la nacelle, et moi j'y mis le pied après lui. Le bois frêle ne parut se charger que quand j'y fus entré. Et dès que tous les deux nous fûmes dans la barque, elle partit, creusant une plus forte marque sur le flot doucement d'ordinaire effleuré. Tandis que nous courions sur l'eau morte, à la proue le fantôme se dresse, et tout couvert de boue, « Avant l'heure, tu viens, dit-il. Qui donc es-tu ? Je ne fais que passer dans ce lieu d'anathème pour te souiller ainsi, qui donc es-tu toi-même ? Hélas, je suis une ombre en pleurs, tu l'as bien vu. Eh bien, lui répondis-je, être indigne, demeure, demeure dans ta boue, esprit maudit, et pleure, car je te reconnais sous ton masque fangeux. » Chant 8 de l'Enfer de Dante.
Un très grand tableau. Dans l'obscurité méphitique du cinquième cercle, se détachant sur le fond incendié de la ville infernale, Dante et Virgile, debout dans leur barque, contemplent l'effarant spectacle des maudits. De l'eau verte du Styx qui étend ses vaguelettes irisées de reflets rouges jusqu'aux fumées qui bouchent au loin l'horizon, de l'eau verte du Styx donc surgissent les damnés qui s'agrippent à l'esquif des deux poètes. Sept furieux, l'un mord l'étrave, un autre qui s'agrippe a déjà passé son bras par-dessus le franc-bord et repousse une femme d'un coup de pied cruel dans le ventre. L'autre s'accroche à la lisse et déjà retombe. De l'autre côté du bateau, on aperçoit une tête grimaçante aux yeux rouges qui menace le batelier. Celui-ci, concentré sur sa rame de dos, déhanché par l'effort, a le corps cerné d'une étoffe bleue qui, jetée sur ses épaules, est secouée par le vent. Le vaste manteau, ocre rouge de Virgile, le drape majestueusement au centre de la composition. La tête couronnée de lauriers, son visage est calme, mais pâle et ne semble pas ému par la scène. De sa main droite, il effleure celle de Dante qui, lui, au contraire, saisi par l'effroi, se recule et lève un bras pour se protéger de cette vision. Son bonnet rouge, son nez aquilin, On le reconnaît ainsi, tandis que son habit vert, pâle, ajoute une tache amère au tableau. Les chairs, les matières, les luisances, les couleurs sont celles du drame et du tourment, mais la barque puissante maintient son cap. À sa poupe est inscrit son nom, Eugène Delacroix.
Je sors d'un travail de chien qui me prend tous mes instants depuis 2 mois et demi. J'ai fait dans cet espace de temps un tableau assez considérable et qui va figurer au salon. Je tenais beaucoup à m'y voir cette année et c'est un coup de fortune que je tente. Eugène Delacroix, Charles Soulier, 15 avril 1922.
Pour commenter cet extraordinaire tableau, j'ai la chance d'avoir avec moi l'artiste Gérald Petit. Bonjour Gérald.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Vous êtes peintre, photographe, vous êtes passionné pour la musique, mais vous êtes de plus en plus peintre. Votre travail est souvent construit autour de l'art classique et auquel vous amenez en général une sorte de rumeur particulière qui est liée au contemporain. Vous avez en ce moment une exposition, je crois, à la Galerie Triple V, non ?
Oui, absolument.
Elle a un titre ?
Inauguration, tout simplement.
Parce que c'est pas mal.
C'est un nouvel espace et qui a décidé de présenter comme première exposition une sorte de ce que j'appellerais un portrait de la galerie, puisqu'il présente une pièce de chaque artiste, chacun des 20 artistes de la galerie. Et c'est la première fois qu'on peut voir le portrait aussi fidèle de ce qu'est Triple V depuis son existence, depuis 10 ans, disons.
10 ans de travail de la galerie Triple V, donc c'est à voir 5 rue du Mail. Et donc, on va être soutenu, vous inquiétez pas. Moi, je m'inquiétais un petit peu, mais on va être soutenu par Dominique de Fonréau. Alors, Dominique, historienne de l'art célèbre, conservateur en chef au musée du Louvre. Vous avez été pendant des années conservateur au musée d'Orsay, responsable de la collection de photographies. Vous enseignez à l'école du Louvre et à l'Institut des sciences politiques de Paris. Vous êtes directrice du musée Eugène Delacroix. Ça va être long si je dis tout, hein. Mais je vais quand même citer quelques expositions très importantes, hein. L'œuvre d'art et sa reproduction photographique au musée d'Orsay, c'était en 2008. C'est une exposition marquante. Vous avez travaillé sur Courbet. C'est une exposition inoubliable. C'était aux Galeries nationales du Grand Palais. Vous avez été commissaire avec Laurence Descartes et Édouard Papet d'une exposition sur Jean-Léon Gérôme, évidemment. Et vous avez sorti un livre fantastique, je ne sais pas en quelle année c'était d'ailleurs, qui s'appelait Peinture et photographie.
En 2012.
Les enjeux d'une rencontre en 2012. Excellent livre de référence, un livre très original.
Merci, cher Jean. Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, et
malgré
vous-même ?
Cette longue énumération.
Oui.
Mais c'est un peu de votre faute.
Non, et de la vôtre. Parce que,
bon. Gérald Petit, vous êtes allé voir ce tableau récemment.
Absolument.
Est-ce que vous le connaissiez évidemment depuis toujours? C'est un tableau que les artistes regardent souvent, puisqu'il a été très copié. Dominique nous le précisera. Il a été très copié, Dominique?
Oui, il a été copié, notamment par Courbet. Il a été copié par Manet. Il y a une très belle copie par Manet au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Il a été copié par Cézanne, notamment. Donc c'est vraiment un tableau qui est copié quand il est au Musée du Luxembourg. Et puis ensuite, il rentre au Louvre à partir de novembre 1874 et où il est présenté depuis lors, en fait. Donc, c'est vraiment un tableau bien connu par les artistes et bien apprécié.
Donc Gérald Petit, vous ne l'avez pas encore copié, vous allez le faire peut-être ?
Mais certainement, oui.
C'est une pratique qui n'existe plus tellement.
La copie, non, mais la citation par d'autres moyens de reproduction mécanique ou de citation est quand même quelque chose de très courant aujourd'hui.
Ou conceptuel, d'ailleurs.
Ou conceptuel, oui. C'est-à-dire on peut copier une œuvre en se saisissant de sa sève. Mais pour cause, c'est vrai que la copie de Manet qui est au Musée des Beaux-Arts de Lyon, c'est une œuvre que je connaissais presque mieux que l'original pour la voir régulièrement, travaillant au Beaux-Arts de Lyon, y allant de temps en temps. Et effectivement, on s'habitue à ce changement d'échelle et à la synthèse que Manet en a faite. Bien que je trouve celle de Cézanne encore plus saisissante, parce que je crois que c'est la copie de Cézanne est celle qui dit au mieux l'incroyable synthèse de composition et de couleur en fait à laquelle parvenait Delacroix dès ce tableau presque de jeunesse, 24 ans, c'est assez dingue de réussir un tel exploit. Le coup de fortune a marché.
A marché. Oui.
Et moi, je vois vraiment cette œuvre. Oui. C'était flagrant en retournant la voir au Louvre il y a quelques semaines, comme une sorte de profession de foi qui contient toutes les inventions de Delacroix qui va développer au cours des 20 prochaines années, en gros. Oui. Et c'est vrai que c'est une œuvre folle, elle est polysémique, il y a tellement de degrés de lecture qu'il faut bien une heure effectivement pour les aborder, mais en tout cas dans l'expérience au musée, la première chose qui m'a frappé, c'est effectivement ce que la muséographie renforce, c'est le fait que sa lecture est indissociable de celle du radeau de la Méduse à côté de laquelle elle est accrochée.
Alors peut-être radeau de la Méduse, de quoi s'agit-il ?
Bah, le radeau de la Méduse, c'est le grand tableau de Géricault, donc au salon qui précède.
Pourquoi est-ce qu'on associe toujours ces deux tableaux ?
Pourquoi est-ce qu'on associe ces deux tableaux ? Bah parce que Delacroix, ici, a une référence implicite hein, à Géricault hein, par rapport au radeau de la Méduse. Hein. Le radeau de la Méduse, c'est le grand tableau que Géricault présente donc, au salon de 1819, hein, le salon qui précède, puisque le salon n'est pas annuel hein, sous la Restauration. Et tableau qui, on le sait, mais on pourrait en parler pendant des heures, qui, on sait, fait référence à cet épisode malheureux de la Méduse, hein, avec l'officier de marine qui a abandonné un certain membre de son équipage sur un radeau. Donc, c'est donc cet événement très cruel, très sombre. Hein,
mais qui manifestait aussi Géricault. l'incompétence,
bien sûr,
liée à la Restauration.
Et puis aussi, plus largement que ça, comme l'a dit très bien Michelet, c'est la France hein, que Géricault embarque en fait, sur un radeau. Hein, c'est aussi une allégorie.
On dit que l'un des personnages du radeau de la Méduse est Delacroix lui-même.
Tout à fait, absolument. Il a posé pour le jeune homme de dos. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on voit le Flégias ici qui est de dos, il y a comme une sorte de rappel. Hein. D'ailleurs, quand on voit la barque de Dante, on se demande toujours un tout petit peu où est Delacroix lui-même, puisqu'il est forcément un tout petit peu là aussi, comme vous le disiez. Hein, c'est aussi quelque chose qui, j'aime pas toujours dire qui annonce, mais en tous les cas, on voit il y a déjà en germe des choses qu'il va développer ensuite dans sa carrière. Alors, la référence à Géricault, elle est très forte pour Delacroix, parce que Delacroix est un peu plus jeune que Géricault. Et d'une certaine manière, Delacroix a été porté par Géricault, hein, parce que quand Delacroix rentre dans l'atelier de Pierre-Narcisse Guérin, au milieu des années 1810, Delacroix, à ce moment-là, est orphelin, il se cherche comme peintre, et il est tout jeune, hein, il a 17 ans. Et Guérin ne le dédaigne, en fait, hein. Pierre-Narcisse Guérin n'a sans doute pas vu Delacroix. Et heureusement, Géricault le prend sous son aile. Et Géricault, c'est un homme déjà reconnu, hein, présent au salon dès 1812 et 1814, avec aussi une présence physique, une beauté à laquelle les hommes comme les femmes étaient sensibles. Et donc, il est vraiment pour Delacroix... j'allais dire, bien sûr, un modèle, dans tous les sens du terme modèle, d'ailleurs, à la fois comme ami, mais aussi comme peintre. Mais il est aussi déjà un maître, alors que, d'une certaine manière, Géricault est à peine plus âgé que lui. Mais on le voit bien dans la barque de Dante, il est un des maîtres que Delacroix se choisit, à côté, mais on en reparlera, de Rubens, de Michel-Ange ou de l'Antique.
On va reparler de ce lien particulier Géricault-Delacroix. Mais Gérald Petit, vous le lanciez donc avec beaucoup de justesse. La proximité des deux tableaux vous a intéressé, ça a enrichi votre vision lorsque vous y étiez.
Ouais, c'est comme si c'était deux œuvres indissociables par l'histoire, par la complicité entre les deux artistes, effectivement, dont on sait qu'ils étaient très proches, qu'ils collaboraient. Il y a même la rumeur selon laquelle un des damnés serait de la main de Géricault, parce qu'il n'a pas le même traitement que les autres. C'est celui qui est dans le bord inférieur gauche de la peinture, du fait du traitement, de la lumière spécifique qu'il y a dedans, de l'existence d'une étude non signée et qui ressemblerait davantage à la main de Géricault qu'à celle de Delacroix. Et donc, la gémellité à cette époque-là entre les deux tempéraments, entre les deux écritures picturales est assez forte. Et les dissocier serait presque une hérésie à l'endroit du musée.
Et le sujet,
bien sûr.
D'une certaine manière, c'est deux radeaux. Hein. L'un est sur l'Atlantique, donc, puisqu'il a été abandonné par son capitaine. Hein, et là, on est sur le Styx. Mais d'une certaine manière, c'est aussi cet enjeu de la désespérance et de l'instant, qui est quelque chose que Delacroix... comme Géricault sait très bien saisir, hein. La noirceur du radeau, c'est le fait que, Géricault choisit de peindre le moment où l'Argos, qui, en fait, on le sait, les a sauvés, mais on ne sait pas, se détourne. Donc, c'est le moment le plus noir. Et là, de la même façon aussi, hein, le très beau texte de Dante qui était rappelé en début d'émission montre aussi que c'est un moment très noir. Et d'ailleurs, vous le disiez, Jean, Dante n'est pas très à son aise, hein. On voit bien que, alors que Virgile lui garde une certaine sérénité, Dante se dit, mon Dieu, mais que fais-je dans cette histoire? Et donc, il y a aussi cette proximité-là et ce rapport à la fois à l'esquif, à l'eau sombre, au danger de la navigation et au fait aussi que cet état de la navigation, alors devant Jean Loisy, je ne vais pas oser trop en parler parce qu'on sait tous que c'est un grand marin, mais c'est vrai qu'il y a, comme le dit une phrase célèbre, les vivants, les morts et ceux qui naviguent sont finalement toujours dans cet entre-deux et je pense que là, la proximité du sujet...
On va voir ensemble si cette barque est une métaphore, mais je voudrais que nous écoutions à présent un texte célèbre, hein, qui est le texte d'Adolphe Thiers, un des grands personnages, évidemment, de la période, qui va devenir un des grands personnages de la République et qui a salué en 1822, avec beaucoup d'intuition, cette première œuvre présentée au salon par le tout jeune Delacroix.
Aucun tableau ne révèle mieux, à mon avis, l'avenir d'un grand peintre que celui de Monsieur Delacroix, représentant le Dante et Virgile aux enfers. C'est là surtout qu'on peut remarquer ce jet de talent, cet élan de la supériorité naissante qui ranime les espérances un peu découragées par le mérite trop modéré de tout le reste. Le Dante et Virgile, conduits par Caron, traversent le fleuve infernal et fendent avec peine la foule qui se presse autour de leur barque pour y pénétrer. Le Dante, supposé vivant, a l'horrible teint des lieux. Virgile, couronné d'un sombre laurier, a les couleurs de la mort. Les malheureux, condamnés à désirer éternellement la rive opposée, s'attachent à la barque. L'un la saisit en vain, est renversé par un mouvement trop rapide et replongé dans les eaux. Un autre l'embrasse et repousse avec les pieds ceux qui veulent aborder comme lui. Deux autres serrent avec les dents le bois qui leur échappe. Il y a là l'égoïsme de la détresse, le désespoir de l'enfer. Dans ce sujet, si voisin de l'exagération, on trouve cependant une sévérité de goût, une convenance locale en quelque sorte, qui relève le dessin auquel des juges sévères mais peu avisés ici pourraient reprocher de manquer de noblesse. Le pinceau est large et ferme, la couleur simple et vigoureuse, quoiqu'un peu crue. L'auteur a, outre cette imagination poétique, qui est commune au peintre comme à l'écrivain, cette imagination de l'art qu'on pourrait appeler en quelque sorte l'imagination du dessin, et qui est tout autre que la précédente. Il jette ses figures, les groupe et les plie à volonté, avec la hardiesse de Michel-Ange et la fécondité de Rubens. Je ne sais quel souvenir des grands artistes me saisit à l'aspect de ce tableau. Je retrouve cette puissance sauvage, ardente, mais naturelle, qui cède sans effort à son propre entraînement. Je ne crois pas m'y tromper, Monsieur Delacroix a reçu le génie. Qu'il avance avec assurance, qu'il se livre aux immenses travaux, condition indispensable du talent, et ce qui doit lui donner plus de confiance encore, c'est que l'opinion que j'exprime ici sur son compte est celle de l'un des grands maîtres de l'école. Adolphe Thiers, 1822.
Gérald Petit, j'imagine que beaucoup d'artistes aimeraient bien avoir des textes aussi précis sur leur travail lorsqu'ils font une œuvre. Vous qui avez vu cette œuvre, vous trouvez que l'auteur a eu l'intuition de vraiment du personnage que pouvait être Delacroix ?
Oui, enfin l'intuition du personnage ou de l'œuvre naissante, c'est évident que, pour ma part, c'est ce que je disais tout à l'heure, encore aujourd'hui, le nombre de couches de complexité, d'invention, de ce qui est en train de se faire. Effectivement, en plus, il faut se remettre dans un contexte où la peinture, elle est encore sous l'égide de David, avec la contradiction que démarre Gros. Et bien sûr qu'il y a le désir d'être en contradiction avec ça, mais tout en étant dans la révérence des maîtres. Et donc, de effectivement, le texte dit à quel point ça cite Michel-Ange, Rubens, comment les...
Ça ne vous paraît pas curieux, une œuvre qui est une vraie œuvre de rupture pour l'époque et qui, en même temps, n'a rien oublié des grands prédécesseurs ?
Ben, c'est vraiment une des caractéristiques de Delacroix dans toute son œuvre, je crois. C'est l'hommage permanent, sidérant... au classique, mais d'une manière large, parce que c'est évidemment, il pourrait y avoir une confusion avec la notion de classicisme qui a lieu encore au XIXe, surtout avec la querelle avec Ingres et cette perpétuation comme ça d'un
des deux grands lutteurs, dit Baudelaire. Hein,
oui, exactement, les deux grands lutteurs. Ouais, et le recul permet de mettre en crise aussi ce duel, parce qu'on peut lire aujourd'hui avec notre distance d'autres formes de querelle, et on peut rendre à Ingres ce qui lui appartient. On peut reprocher à Delacroix ce qu'on pourrait lui reprocher aussi par rapport à la question du classique. Mais en l'occurrence, là, dans cette œuvre-là, encore une fois, moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'il a 24 ans quand il l'a peint. Et ce qui me semble aussi, pour reprendre la comparaison tout à l'heure avec le radeau de la Méduse, ce qui me semble vraiment fondamental, c'est que Géricault, il part d'un fait divers pour créer cette œuvre immense dans son format, qui rivalise avec les formats tableaux d'histoire, mais en prenant quelque chose de factuel et de contemporain. Et ça rejoint une forme de représentation mythologique d'un drame. Delacroix, lui, qui a effectivement une culture très littéraire, il se réfugie chez Dante, donc dans un texte initiatique pour lui, qui a 300 ans, je crois, au moment où lui il s'en inspire. Même plus, peut-être.
Plus, hein,
enfin, oui,
c'est
plus.
C'est,
oui,
on est au XIIIe siècle.
Mon rapport aux mathématiques se manifeste très bien. Là. Et du coup, il se réfugie plutôt dans une dimension littéraire, donc plutôt... peut-être moins métaphorique que fantasmagorique, en tout cas le lieu du tumulte, de la passion, de la mélancolie et surtout du tourment, parce que l'œuvre de Dante, c'est une quête amoureuse quand même. Ce qui motive toute cette traversée de l'enfer, du purgatoire jusqu'au paradis, c'est pour retrouver Béatrice.
Alors attendez, on va examiner un petit peu sous ces pistes que vous nous lancez, Dominique de Font-Réo. Donc... un jeune artiste de 24 ans qui déjà est entièrement Delacroix.
Oui, il est entièrement Delacroix dans la mesure où c'est l'année où il va commencer son journal, hein, où il commence son journal hein, quelques mois plus tard, à l'automne 1822. Et il a déjà l'intuition de son génie, hein, c'est quelque chose qu'il habite très tôt. Et il a aussi quelque chose qui le porte jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire le fait que le grand artiste est celui qui est fidèle à l'idéal qu'il porte en lui. Et je pense que c'est ce qui lui permet toujours de lier à la fois tradition et en même temps création personnelle, c'est que d'une certaine manière, et c'est aussi lui qui l'écrit quelques années plus tard, il essaye toujours d'imiter sans être imitateur. C'est-à-dire que la référence, elle est là, il ne la nie jamais, que ce soit d'ailleurs dans ce tableau comme dans d'autres, hein, la référence, on l'évoquait à l'Antique, à Géricault, à Rubens, à Michel-Ange, hein, qui sont quand même ses grands maîtres hein, quand on analyse
on voit
cela.
Bien que les corps sont très michel-angélesques.
Voilà. Exactement, et Rubens aussi, hein, puisqu'il y a aussi l'évocation...
Les fameuses gouttes
d'eau. Oui, les gouttes d'eau, et puis les naïades du débarquement de Marie de Médicis, qui avaient été peintes par Rubens pour le palais du Luxembourg.
Pardon Dominique, à ce propos-là, je voudrais vous interroger à nouveau par rapport à Rubens, justement, parce que est-ce que le tableau n'a pas été peint deux fois ? J'ai entendu cela, j'ai lu ça dans quelques textes. Que
le tableau de lequel celui-ci?
Le tableau de Delacroix. Est-ce que Delacroix n'est pas revenu lui-même sur le tableau une quinzaine d'années plus tard?
Il a voulu revenir dessus, effectivement, mais ça, c'est quelque chose dont on le dit, dont on n'a pas forcément la preuve absolue, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a eu envie. On a dit aussi qu'il y avait une variante, mais dont on ne sait pas, enfin, qui est perdue en tous les cas. Mais ce qui est intéressant, et ce que je voulais dire par rapport à Rubens ou par rapport d'ailleurs aux autres maîtres, c'est que cette œuvre, on voit bien aussi que c'est une œuvre possible pour un artiste de la génération de Delacroix, et je reviendrai sur cette notion de génération qui est très importante, qui est née après l'ouverture du musée. Parce que finalement, c'est l'œuvre d'un peintre qui a pu voir au musée à la fois Rubens, à la fois les maîtres italiens, à la fois l'Antique. Et c'est quelque chose qui est très intéressant chez Delacroix, parce que quelque chose, je vais prendre un terme césanien, mais Cézanne a tellement regardé Delacroix qu'on peut se l'autoriser, mais la synthèse, d'une certaine manière, qu'il fait parfois entre les arts des maîtres et son inspiration propre, c'est ce que lui permet le musée. Et on voit
bien... Parce qu'auparavant, donc simplement pour resituer la chose, auparavant, la transmission des œuvres des maîtres se faisaient par la gravure.
Par la gravure,
et,
voilà.
Et là, il y a l'extase de la couleur chez Delacroix qui vient effectivement de la fréquentation de
l'œuvre en vrai. De l'œuvre en vrai avec la vraie taille, parce que par exemple, si je reprends la très belle suite de Rubens pour Marie de Médicis,
c'est au Louvre. Hein,
c'est au Louvre. Hein,
nos auditeurs qui veulent la voir.
Ce sont des œuvres de très grande dimension. Hein, donc c'était au Louvre dans l'aile Richelieu. Il y a une différence énorme, même au-delà de la couleur, par rapport à la taille. C'est-à-dire qu'il y a un rapport aussi à la taille qui saisit très profondément. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que Il a très tôt cette idée-là de son talent et cette idée aussi de la singularité de son talent qu'il défend assez farouchement. Et moi aussi, hein, je suis très frappée par le fait qu'il n'a que 24 ans. Hein. Il est né en avril 1798, donc on est en avril 1822, il a juste 24 ans. Et qu'il appartient, comme Thiers d'ailleurs, hein, parce que Thiers est un tout jeune avocat et qu'il il fait ses premières armes de critique d'art la même année, en 1822. Hein, ils sont exactement de la même génération, hein, ils appartiennent exactement à la même génération. D'ailleurs, à ses premières... ils sont ces jeunes gens qui, pour qui finalement le concept de génération est né, puisqu'ils sont ceux comme Musset, hein, qui sont nés trop tard dans un monde déjà trop vieux et qui ont l'impression d'être passés à côté du grand moment de l'histoire, c'est-à-dire la Révolution française, et qui donc ne vont avoir de cesse que d'exister sur la scène de leurs propres compétences, donc pour Thiers à la fois avocat puis politicien, et pour Delacroix artiste. Donc il le dit bien à Soulier, hein, il y a l'idée d'exister au salon en 1822, et il a une chance relative pour exister au salon, c'est que c'est un salon, et c'est dit par la critique, hein, par beaucoup de critiques, c'est un salon un peu d'entre-deux, puisque David est, on le sait, exilé à Bruxelles, donc il peut pas présenter. Et puis, d'une certaine manière, Gérard, qui envoie sa Corinne, l'envoie après l'ouverture du salon. Donc, il y a un peu quelque chose qui donne la possibilité à un tout jeune artiste d'être remarqué. Et Delacroix en profite, et c'est aussi pour ça qu'il veut se mobiliser. Donc, alors, ça, c'est quelque chose de très intéressant.
Merci, Dominique, de ces précisions. Mais Gérald, dites-moi, quand vous regardez ce tableau aujourd'hui, qu'est-ce qu'à votre avis apporte Delacroix à ce moment-là qui était inhabituel ? Qu'est-ce qui vous apporte à vous encore aujourd'hui d'inhabituel ? Est-ce que c'est la couleur ? Est-ce que c'est un mélange de précision et d'imprécision ? Est-ce que c'est un flou ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un concept ?
Non, je dirais, c'est plus la dimension ou la sensation composite de l'œuvre. C'est-à-dire, c'est chaque partie de cette image, de ce moment, en fait, a un traitement particulier. La géographie, c'est-à-dire la ville qu'on devine en flammes dans l'arrière-plan, sa synthèse avec le ciel a un traitement particulier. La surface de l'eau, sa noirceur, sa transparence, son chaos a un autre traitement. Les corps ont un traitement en eux-mêmes. Et les corps des trois personnages principaux de la barque sont traités par l'étoffe, essentiellement. Étoffe et couleur, donc il y a une sorte de... Quelque part, ce qui est privilégié là, c'est la représentation du héros, entre guillemets, non plus à travers la représentation totale de son corps, parce que le corps est quasiment nié par l'étoffe, mais par une sorte d'incarnation de l'état d'esprit, du tumulte d'esprit dans lequel ils sont pris.
Est-ce que vous voulez dire que quand vous parlez du tumulte, je sais que dans certains de vos tableaux et certaines des personnes qui ont écrit sur votre travail parlent de la rumeur à propos de votre tableau, est-ce que vous avez la sensation qu'il y a une sorte de rumeur qui monte du tableau et qui va presque au-delà de la reconnaissance du sujet ?
Ah oui, moi j'en suis... Enfin, en tout cas, je sais pas quelle est la limite de la projection et la vérité dans tout ça, mais j'y vois beaucoup d'interprétations, de choses dissimulées. Dans les visages, par exemple, de Dante et Virgile, dans leur apparence presque jumelle, presque générique, enfin, d'ailleurs, on peut pas nier qu'ils soient assez jeunes, on peut pas nier qu'ils se ressemblent, on peut pas nier qu'il y ait une forme de fraternité dans le geste de la main de Virgile qui soutient finalement l'effroi de Dante. Je peux pas m'empêcher, moi, d'y voir la relation entre Géricault et Delacroix. Enfin, en tout cas, quand je vois le tableau, j'ai envie de voir ça.
On la sent profondément. Alors, c'est vrai, on va reparler de Géricault. Je voudrais juste vous lire et vous faire réagir sur quelques phrases de Baudelaire que je trouve assez intéressantes par rapport à cette idée de rumeur dont on parlait. Et il parle de la couleur à cette occasion-là. Et il dit, vu à une distance trop grande pour analyser ou même comprendre le sujet, un tableau de Delacroix a déjà produit sur l'âme une impression riche, heureuse ou mélancolique. On dirait que cette peinture, comme les sorciers et les magnétiseurs, projette sa pensée à distance. Ça voudrait dire qu'on reçoit l'effet psychologique de l'œuvre avant même d'en avoir reconnu le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique ?
Moi, c'est quelque chose qu'on expérimente
très bien. Vous vivez avec les tableaux de Delacroix, ouais. Et un peu avec lui aussi.
Bah, avec lui surtout, évidemment. C'est quelque chose qu'on expérimente très bien quand on est dans la grande galerie du Louvre et par rapport à la barque de Dante, mais aussi par rapport au Sardanapale, par exemple, hein, qui est donc un tableau qu'il a présenté au salon de 1827, hein, et qui a fait scandale. Ce sont des œuvres, en fait, qu'on ne voit pas exactement de la même façon si on les voit à distance ou si on les voit à côté. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cet enjeu de la couleur qui fait à la fois rythme, qui fait son et qui attire, qui séduit, qui fait d'ailleurs qu'on a pu penser puisque les dessins de Delacroix n'étaient pas connus de son vivant, on a pu penser qu'il n'avait pas forcément de dessins préparatoires à ses compositions. On a su après que ce n'était pas la réalité, mais parce que la couleur est arrangée de façon telle qu'elle devient effectivement quelque chose qui vient nous chercher là où nous sommes. En fait, il y a quelque chose d'incroyable chez Delacroix et qu'il a très bien saisi. Alors, il s'intéresse, on le sait, à tous les travaux de Goethe, par exemple, sur la couleur. On sait qu'en plus, ensuite, il s'est intéressé aux travaux de Chevreul, mais en fait, ses propres considérations sur la couleur ont même précédé notamment les travaux de Chevreul, hein, contrairement à ce qu'on a pu dire parfois. Donc, c'est vrai que...
Mais vous voulez dire que ce qui sera au XXe siècle, alors c'est un peu difficile dans la généalogie, mais ce qui sera au XXe siècle une vraie indépendance entre la couleur et le sujet, on le pressent déjà à cette époque-là?
C'est-à-dire que, je ne sais pas si Delacroix l'aurait dit comme ça, parce qu'évidemment, là, on est en train de plaquer quelque chose
qu'on a connu,
donc c'est a posteriori. Ouais. Donc, mais ce qui est certain, c'est que je suis sensible à ce que vous disiez sur la composition, parce que Delacroix est quelqu'un qui a ce sens à la fois du sujet, mais aussi du fragment. Et c'est quelque chose qui vient aussi chercher en partie chez Géricault. Hein. Une des œuvres qu'il aimait le plus, c'est ce très beau tableau qui est aujourd'hui au musée Fabre de Montpellier, qui sont ces fragments de corps humains que Géricault avait copiés à la morgue et pour Delacroix.
Au moment de préparer effectivement le Radeau de la Méduse et d'étudier la cadavérisation.
Et c'était un tableau que Delacroix aimait beaucoup et porte au nu, mais bien des années après, hein, 30 ans après. Et ce rapport effectivement au fragment est très intéressant chez Delacroix. Il y a quelque chose de très ambitieux dans sa manière de la composition. C'est d'ailleurs ce que lui ont reproché ces messieurs de l'Académie. Hein. C'est justement d'en prendre de la liberté avec quelque chose qui est extrêmement cadré. Même si, il faut quand même le dire, hein, Delacroix n'est pas un artiste maudit. Ce tableau-là, ne l'oublions pas, mais on aura l'occasion de le dire, est acheté par l'État. Hein, et il est remarqué par le comte de Forbin et acheté par l'État. Donc, c'est un coup de maître.
Hein. Oui, c'est un coup de maître. Alors, écoutons, je propose à ce propos de la réception de Delacroix, écoutons à présent Charles-Paul Landon, Delescluze et d'autres, un compilé de la réception critique que reçut Delacroix pour son tableau en 1822.
On est tenté de voir dans celle-ci, la peinture, deux différentes mains. L'une aurait disposé le sujet sur la toile et dessiné les figures, l'autre les aurait coloriées. On irait même jusqu'à penser, si une semblable supposition était admissible, que le tableau pourrait être non seulement de plusieurs mains, mais encore d'un pinceau moderne, d'après quelques vieux dessins de l'école florentine. Au surplus, cette observation est sans conséquence, et nous ne prétendrons donner aucun poids à de semblables conjectures. Tout ce que nous croyons pouvoir affirmer, c'est que le style de ce tableau, qui a un mérite très réel sous le rapport de l'expression et des caractères, est étranger aux productions de notre école. Charles-Paul Landon, Salon de 1822. Ce tableau n'en est pas un. C'est, comme on dit en style d'atelier, une vraie tartouillade. Étienne-Jean Delescluze, Salon de 1822. Je ne connais point l'auteur de ce tableau, numéro 309, mais je parie qu'il est jeune, qu'il a beaucoup d'imagination, et que si jamais il devient coloriste, il prendra un rang distingué dans l'école. Vous avez deviné juste sur le premier point, Monsieur Delacroix est très jeune. Son tableau du Dante et Virgile est une composition où la chaleur est portée jusqu'à l'emportement et la hardiesse jusqu'à l'exagération. L'étude et le goût lui apprendront que la maxime « pictura poesis ut » ne doit pas toujours être intervertie. Le miroir des spectacles, des lettres, des mœurs et des arts, 1er mai 1822. «
Dominique de Fonréau, je me souviens de Baudelaire disant « Voici Dante et Virgile, le tableau d'un jeune homme qui fut une révolution ». Cette révolution, elle a eu lieu, ça a vraiment été une révolution? Ou est-ce que, si je vous pose la question, c'est parce que j'ai l'impression que, comme vous le laissiez entendre, Géricault avait déjà abordé cette révolution. Et cette révolution, elle était peut-être en marche déjà en Angleterre, elle était en marche dans la littérature. Est-ce que cette révolution a comme nom le romantisme ou est-ce que c'est autre chose?
Ah, ça c'est un sujet qui nous prendrait plusieurs émissions, cher Jean, donc ça va nous emmener très loin. Mais c'est vrai que c'est tout l'enjeu de la rupture et de la tradition, d'une certaine manière, dont Delacroix, comme Géricault avant lui, est conscient. C'est-à-dire que c'est l'enjeu de cette génération, cette génération qui veut exister. Et c'est certain que cette génération de peintres a certainement été... peut-être la première à jouer comme ça aussi du rapport, je vais prendre un afro-néologisme, mais médiatique, et du rapport à la critique. Et le fait, par exemple, que le jeune Thiers veuille exister comme critique au moment où le jeune Delacroix arrive sur la scène est aussi quelque chose de très intéressant. Donc, il y a une rupture qui est liée au statut de l'artiste, il y a une rupture qui est liée aussi au rapport au musée. Moi, je tiens le musée comme à la fois une invention des Lumières, mais aussi une invention romantique, qui, d'une certaine manière... en nous plaçant tous, le musée se crée comme le musée de la nation, donc en nous plaçant tous comme spectateurs et comme regardeurs des tableaux, d'une certaine manière, c'est aussi une invention romantique, donc ça c'est certain, mais c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans une tradition, parce que la grande ambition de ces artistes, c'est aussi d'être peintre d'histoire, c'est aussi de s'ancrer dans une tradition artistique qu'ils ne nient pas complètement, puisque ici, Delacroix, encore une fois, rend hommage à des peintres qui l'ont précédé, ne serait-ce aussi à Gros, parce que...
Mais vous avez raison de parler de Gros, parce que c'est le pré-romantique par excellence, c'est la partie romantique de la légende napoléonienne,
oui,
certainement. Mais il s'oppose quand même assez nettement au néoclassicisme de David.
Oui, en fait, ce à quoi il s'oppose surtout, et d'ailleurs, on lui a jamais vraiment pardonné, ce à quoi il s'oppose surtout, et Géricault aussi, c'est que finalement, Géricault comme Delacroix, ils arrivent et ils sont présents au salon. Delacroix, encore une fois, la barque de Dante va être achetée parce que le comte de Forbin le remarque et l'achète pour l'État. Donc, d'une certaine manière, ils peuvent s'affranchir des fourches codines de la formation académique. Et ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, agace les tenants de l'Académie. Et puis aussi, alors moins avec la barque de Dante qu'ensuite avec les massacres de Kyo au salon qui suit en 1824 et surtout avec le Sardanapal en 1827, Delacroix met à bas les grands préceptes de l'Académie qui sont ceux de Félibien, c'est-à-dire le héros qui est un héros positif. Or, pour les massacres de Kyo qui sont quand même encore achetés par l'État à la place centrale, là où il aurait dû avoir le héros, il y a le rien est entouré par tous ces Grecs qui sont menacés par les Turcs et qui sont en train de mourir. Et quand on sort d'un appal, c'est une véritable j'allais dire presque injure, entre guillemets. Enfin, ça a été vu comme ça par les tenants de l'académisme, puisque c'est une composition qui est elliptique et c'est un anti-héros. Donc, Delacroix, je pense qu'il n'a pas voulu provoquer. Je ne crois pas qu'il y ait chez lui... c'est pas Courbet, par exemple, pour parler d'un autre artiste qui a un sens de la provocation. D'abord, Courbet est plus jeune d'une génération, il ne faut pas oublier ça. Donc, je ne crois pas qu'il soit dans la provocation, mais il est dans le désir, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, d'exister et d'être fidèle à ce qu'il porte en lui-même. Et tant pis si ça vient heurter quelques susceptibilités qui soient, il lui semble important d'exister.
De toute façon, j'ai l'impression que dans ce moment quand même romantique, tout ce qui est passionné, tout ce qui est exalté, tout ce qui est grand est célébré au fond par les artistes, désiré par les artistes. Mais Gérald Petit, vous-même, que pensez-vous qui ait pu à ce point choquer quelques-uns des contemporains de Delacroix?
Avec cette œuvre en particulier?
Oui, mais son œuvre en général d'ailleurs, parce que c'est...
Je pense l'audace par rapport à tout ce qui est canonique, effectivement, dans l'héritage de David, mais qui est un héritage esthétique, mais qui est aussi un héritage politique, parce que David, il a quand même servi avec plus ou moins d'ambiguïté différents régimes, des grands chapitres historiques condensés en très peu de temps. Et Géricault et Delacroix, ils ont une conscience aiguë de ça, il me semble. Ils ont très envie de se positionner aussi... comme acteurs sociaux à travers leur travail d'une manière très différente, beaucoup plus marquée. Et d'ailleurs, c'est vrai que la barque de Dante est tout de suite achetée par l'État, mais se pose la question, enfin en tout cas dans certains commentaires, de savoir si la dimension politique de l'œuvre avait été vraiment remarquée par ses acquéreurs, parce que c'est quand même quelque chose d'assez cinglant quelque part, et en même temps, effectivement, c'est peut-être sa dimension métaphorique qui fait que l'évidence n'a pas été vue par tous. Mais
j'ai eu l'impression, en voyant ces personnages sur cette barque. Et la barque a le nom de la croix, hein, donc que c'est vraiment la barque de la peinture attaquée par les autres, en fait, un petit peu. C'est je vais faire ma carrière, je vais continuer mon chemin et rien ne m'arrêtera. Il y a un aspect comme ça personnel, croyez-vous ?
Oui, je crois que c'est une des dimensions déclaratives de l'œuvre, sans doute. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que vous disiez juste avant, c'est qu'effectivement, ce qui fait qu'il y a une telle rupture, enfin, si cette peinture est révolutionnaire autant que Delacroix a pu l'être, c'est aussi une question de contexte, parce que le contexte est très changeant. Vous parliez du musée qui permet de faire l'expérience de l'œuvre à échelle 1, mais c'est aussi la contemporanéité avec la manière dont Delacroix a été marqué par Faust, la manière dont le théâtre joue un rôle de plus en plus important dans son travail, parce qu'il est il est fasciné par la théâtralité des pièces de Shakespeare.
Alors vous avez raison, Goethe, Shakespeare, Dante, au fond c'est assez nouveau. C'était pas ce qu'il y avait la peinture d'histoire était plus importante que la peinture littéraire,
bien sûr.
Façon. Et donc il amène un autre dimension.
Tout à fait. Et puis on évoquait le fait effectivement que Dante écrit au XIIIe siècle, mais Dante au début du XIXe siècle c'est une figure relativement nouvelle, en fait, d'une certaine manière. Les historiens d'art tout à fait avertis ont pu écrire que Dante ou que Shakespeare étaient des figures romantiques, hein, d'une certaine manière, et elles le sont. Ils le sont, même si on sait bien qu'ils ont vécu bien avant le XIXe siècle. Mais là, il y a en ce début de XIXe siècle une lecture nouvelle, romantique, de Dante, de Shakespeare ou de Cervantes, hein, aussi. Et donc, qui sont le rapport à la langue, hein, donc Dante qui est le premier poète à écrire en italien, Shakespeare qui n'est découvert en anglais que au début du 19e siècle, parce qu'avant il est maltraité par les traductions qui essayent de transformer ses drames en tragédies classiques. Donc ça,
il avait fait presque à ce moment-là le premier Hamlet, n'est-ce
oui,
pas ?
Oui, le premier Hamlet, c'est ce que j'allais dire exactement, Jean, merci beaucoup de l'évoquer. Le premier Hamlet qui est d'ailleurs conservé au musée de la Croix, hein, donc qui est un de ses autoportraits, il date du tout début des années 1820, donc le tout début, donc juste 2 ans avant. Et moi j'ai toujours vu dans la barque de Dante aussi une lecture shakespearienne. Enfin, il y a quelque chose aussi de la noirceur, du drame, et puis de quelque chose qui l'intéresse beaucoup, parce que même si c'est pas très bien entendu avec Pierre-Narcisse Guérin, il a certainement eu chez Guérin ce rapport au théâtre, hein, qui était si puissant chez lui, et ce choix à la fois de l'instant et aussi de la narration, hein, ce rapport entre la représentation picturale et la représentation théâtrale. Donc c'est pour Delacroix extrêmement important, et de la même façon qu'il il lit Dante en français, mais il essaye de lire Shakespeare en anglais, et tous ces textes conçoivent un imaginaire qui est un imaginaire à la fois littéraire, mythique, mais surtout qui exalte sa propre imagination. Mmh. Et c'est ça qui est très intéressant chez lui, c'est qu'il y a un rapport à l'invention personnelle qui se fonde sur des textes avec lesquels il joue et qu'il réécrit, et ne jamais oublier l'importance de l'écriture pour Delacroix lui-même. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tenté aussi par cette création littéraire.
Puisque, comme vous le rappeliez tout à l'heure, juste à ce moment-là,
il commence son journal
qui est célèbre.
Exactement, et qu'il a écrit quelques années plutôt deux longues nouvelles et une petite pièce de théâtre dont nous conservons les manuscrits au musée de la Croix, et sur lequel nous avons entamé une édition littéraire. Et donc c'est quelqu'un qui est travaillé aussi par l'écriture. Donc il y a vraiment, dans le choix de choisir Virgile, Dante, hein, vous parliez tout à l'heure du rapport entre Virgile et Dante, et donc entre Géricault et de la Croix, c'est sûr, hein, qu'il y a quelque chose de sa propre représentation, hein, ce mélange à la fois entre la poésie et la peinture. C'est aussi le point d'un jeune homme qui s'est en partie aussi rêvé comme écrivain et comme poète, hein. Et quand il commence son journal, il a comme évocation, il le dit, il l'écrit lui-même, Michel-Ange à la fois peintre et poète, et Michel-Ange, avec la force des Egnoudis qui sont ici, nous est bien rappelé.
Gérald Petit, donc c'est écriture et peinture s'associent à ce moment-là. Il y avait aussi l'admiration pour Byron, l'admiration pour Goethe, donc c'est, comme vous le rappeliez. C'est étrangement une peinture incroyablement picturale et au fond, c'est un texte.
Oui, oui, c'est un texte à plusieurs entrées, évidemment. Moi, je trouve effectivement que c'est une œuvre fascinante parce qu'elle prend langue avec d'autres formes d'expression, justement par rapport à ce qui vient d'être dit, et que la dimension littéraire de la peinture, enfin sa qualité littéraire, sa qualité imageante, sa qualité d'écriture, c'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure de la manière dont les différentes parties du tableau correspondent à différentes syntaxes, et qu'il y a quelque chose de très musical, effectivement, de très rythmé, de très sonore, et qui varie, effectivement, selon qu'on regarde l'image dans sa globalité ou par fragment, parce qu'effectivement, c'est une peinture très fragmentée. Et ça, c'est une des choses qui me semble être une des grandes inventions de Delacroix avec cette œuvre. Après, il y a aussi une autre chose, c'est le peu d'amabilité qu'il a avec le dessin, et qui sert quand même de guide depuis un moment. Le classicisme se fonde là-dessus. C'est la grande déclaration d'Ingres, pas de bonne peinture sans bon dessin. Et donc, effectivement, il y a quelque chose de très impétueux d'être à ce point, effectivement, dans une forme de... pas de rejet, hein, parce que c'est quand même très structuré, il y a plein de qualités, mais on sent que le dessin, ce qui pourrait structurer chaque effigie, chaque visage, moi je suis très frappé aussi par la morphologie des visages dans ce tableau, mais des corps, et comment le dessin est toujours rompu, soit par la couleur, soit par la foule du traitement, la tartouillade, hein, comme disait l'autre, qui est pour le coup effectivement le terme qui déclenche l'invention dans tout ce que ça peut avoir de résonant, quoi. Et pourquoi c'est une œuvre qui a été à ce point copiée? Parce que sur un plan vraiment formel, stylistique, c'est vraiment une caverne d'Ali Baba.
Alors, je vous propose, Gérald Petit, que nous écoutions ensemble, enfin, un texte que Charles Baudelaire, qu'on a cité déjà plusieurs fois, a consacré tardivement, en 1846, à Delacroix.
Pour se bien faire une idée du trouble profond que le tableau de Dante et Virgile dut jeter dans les esprits d'alors, de l'étonnement, de l'abasourdissement, de la colère, du hourra, des injures, de l'enthousiasme et des éclats de rire insolents qui entourèrent ce beau tableau, vrai signal d'une révolution, il faut se rappeler que dans l'atelier de M. Guérin, homme d'un grand mérite mais despote et exclusif comme son maître David, il n'y avait qu'un petit nombre de parias qui se préoccupaient des vieux maîtres à l'écart et osaient timidement conspirer à l'ombre de Raphaël et de Michel-Ange. Il n'est pas encore question de Rubens. Monsieur Guérin, rude et sévère envers son jeune élève, ne regarda le tableau qu'à cause du bruit qui se faisait autour. Géricault, qui revenait d'Italie et avait, dit-on, devant les grandes fresques romaines et florentines, abdiqué plusieurs de ses qualités presque originales, complimenta si fort le nouveau peintre, encore timide, que celui-ci en était presque confus. Ce fut devant cette peinture, ou quelque temps après, devant les pestiférés de Sioux, que Gérard lui-même, qui, à ce qu'il semble, était plus homme d'esprit que peintre, s'écria « Un peintre vient de nous être révélé, mais c'est un homme qui court sur les toits. » Pour courir sur les toits, il faut avoir le pied solide et l'œil illuminé par la lumière intérieure. Charles Baudelaire, Le Salon de 1846.
Vous êtes toujours sur France Culture et nous examinons ce tableau extraordinaire, Dante et Virgile, aux enfers, peint par Delacroix. Et nous venons d'entendre un très beau texte de Charles Baudelaire qui parle justement de ce tableau et de l'apparition dans l'atelier de Guérin de cet étrange élève emporté et plein de panache qu'est Delacroix et qui est confus par tant de compliments. Alors, Dominique de Fonréau, vous êtes avec moi pour commenter ce tableau, mais aussi pour nous indiquer un petit peu le contexte. Vous nous avez parlé de l'importance des grands maîtres. Mais vous êtes un petit peu réticente à évoquer ce mot romantisme. Pourtant, c'était le grand sujet du débat de l'époque. Est-ce que vous êtes romantique? Qui est romantique? Qu'est-ce que veut dire le romantisme?
Je ne sais pas que je sois... Romantisme, c'est un très beau terme, mais c'est un terme qui est devenu fourre-tout, qui dit tellement de choses jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la difficulté. Et puis, Delacroix lui-même ne se vivait pas forcément comme romantique. Alors, en même temps... On vient d'écouter Baudelaire, hein, le jeune Baudelaire, hein, le Baudelaire de 1846. C'est Baudelaire qui commence aussi un peu par Delacroix, sa critique. Hein, Baudelaire qui a tellement admiré Delacroix. Hein, pour lui, c'est le grand peintre. Et Baudelaire disait du romantisme que le romantisme, c'est la manière de sentir. Et d'une certaine manière, ça fait écho à ce que Delacroix lui disait lui-même sur le fait de rester fidèle à l'idéal qu'on porte en soi. Donc c'est vrai que Delacroix est romantique, mais en même temps... Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que...
Mais qui est romantique à l'époque de Ménine Fauréau? Le romantisme commence peut-être avec Vernet, peut-être avec...
C'est-à-dire que le romantisme, après, tout dépend où on le fait commencer. On peut le faire commencer avec Rousseau. À ce moment-là, il commence au milieu du XVIIIe siècle, avec les Confessions, hein, quand il écrit l'histoire d'un homme, hein, pour dire tout ce que...
Avec
voilà.
Hubert Robert.
Où il peut, effectivement, avec Hubert Robert, et où il peut être... il n'a pas exactement la même aussi temporalité si on est en Allemagne ou si on est en Angleterre.
Oui, est-ce que ça commence en Angleterre, plutôt
On dit en général que ça commence en Angleterre avec ce romantisme noir, hein, notamment on dit que Fuseli, hein, qui pourtant est suisse, mais enfin bon bref, qui quand même dans la carrière se fait en Grande-Bretagne,
hein,
donc on dit que Fuseli, que Bleck, hein, sont romantiques. Ouais. On le dit aussi bien sûr des poètes allemands, hein, autour de Novalis, autour de Schlegel, de Goethe, hein, donc ce romantisme-là. Et en France, on dit souvent, alors je suis pas la première à le dire, mais que effectivement le romantisme naît dès 1808, en fait, avec ce grand salon de l'Empire, hein, donc en fait avant, hein, Delacroix et Géricault, et avec notamment avec un tableau de Gros que j'aime beaucoup, qui est aussi au Louvre et qui est la bataille d'Eylau. Et magnifique tableau, hein, où on voit avec le ciel est très bas, hein, donc c'est très sombre, hein, cette bataille d'Eylau qui est une quasi-défaite, hein, puisqu'en fait, finalement, les Français l'ont gagnée, mais ils auraient bien pu la perdre aussi.
De
milliers de morts. Napoléon a failli être prisonnier. Et Gros nous montre au premier plan, bien que ce soit le sujet d'un concours, hein, qu'il était choisi par ce concours, hein, qui avait été lancé par Vivant-Denon. Et au premier plan, il y a dans la neige des corps mourants et des corps suppliciés. Donc c'est vrai que beaucoup de critiques s'attachent à dire que le romantisme en France est déjà présent avec ce tableau de Gros. Mais c'est vrai que... On dit aussi que la génération romantique, c'est celle de ces salons des années 1820, donc 1822, 1824, 1827, qui sont rythmés à chaque fois par un tableau de Delacroix, hein, donc la barque de Dante en 22, les massacres de Kyo en 1824 et la mort de Sardanapale en 1827, et dont on dit finalement que Delacroix devient, d'une certaine manière, le champion de cette école romantique. Alors c'est vrai. Et c'est vrai aussi parce que ce qui est bien triste, c'est que Géricault meurt. Hein. Géricault meurt prématurément en 1824.
Donc il y avait un véritable culte à Géricault de la part des artistes. Ils avaient tous le masque.
Et puis ils ont tous participé aussi à la souscription, hein, du tombeau de Géricault par Etex. Hein. Donc il y a eu aussi quelque chose de très fort de ce point de vue-là. Mais c'est vrai aussi, c'est un peu cynique de ma part de dire ça, mais c'est quand même une réalité, c'est que la disparition de Géricault permet aussi à Delacroix d'exister en tant que tel. Hein. Ça, il y a toujours cette difficulté-là. Donc c'est vrai qu'il y a une génération romantique, mais en même temps, on ne peut pas réduire Delacroix simplement à ce romantisme-là. C'est aussi un peintre qui a continué à travailler jusqu'en 1863 et qui a travaillé aussi à sa stratégie de reconnaissance. Et d'une certaine manière, il ne faut pas oublier aussi que celui qui avait été rejeté par l'Académie des Beaux-Arts y candidate sept fois, vous vous rendez compte, candidaté sept fois à une académie et n'est reçu qu'au bout donc de la septième fois en 1857, c'est-à-dire à la fin de sa vie. Donc il y a aussi voilà, quelque chose de complexe, mais évidemment, c'est le tout.
Gérald, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de Goethe qui, en 1829, dit « J'appelle classique ce qui est sain et romantique ce qui est malade ». La formule est amusante.
Oui, elle l'est. Oui.
Mais il y a un goût de l'exploration de l'être dans sa morbidité, dans le romantisme.
Dans le romantisme, oui, bien sûr. Mais enfin, moi, ça m'évoque autant, d'ailleurs, le romantisme à partir de Gros que dès la peinture française qu'incarne Greuze, déjà, en fait.
Oui, enfin, Greuze, c'est plus niais, si je puis dire. Non, ça y est, je vais faire alors, des ennemis.
Non, non.
Ce sont Dominique de Font-Réau qui me regarde avec
des yeux noirs. On peut trouver ça mièvre, effectivement, mais je crois pas que ça le soit tant que ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup, au contraire, plus sensuel que sordide, pour le coup. Mais c'est sensuel quand même.
Vous pouvez, vous trouvez pas, vous qui aimez les petits oiseaux morts? Je sais. Parce que dans votre travail, vous peignez parfois des oiseaux morts, et chez Greuze, il y a souvent des oiseaux morts, mais qui chez lui symbolisent, si je me trompe pas, la perte du pucelage.
Oui, mais c'est je trouve ça complexe quand même, comme manière complexe. De traiter.
Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique de Font-Réau? Vous êtes France Culture, attention.
Pardon, vous parliez, je voudrais être sûr, Jean Loisy, vous parlez bien de Greuze, pas d'autres sujets.
De Greuze, oui.
Voilà. Écoutez, la complicité de Greuze, ça c'est sûr, elle n'échappe pas. Hein. D'ailleurs, elle n'a pas échappé à Diderot, hein, qui le regarde avec beaucoup d'intérêt. Je ne serais pas sûre quand même de le qualifier à proprement parler de romantique, parce qu'il a aussi voulu beaucoup dans sa composition en frise, hein, renvoyer à un certain classicisme. Mais c'est vrai que le romantisme, de toute façon, est enfant des Lumières, hein, et Greuze aussi est enfant des Lumières. Et c'est vrai que le romantisme ne peut se concevoir, mais Michel Foucault l'a dit tellement mieux que moi que je ne vais pas me permettre de le dire trop longtemps, c'est ne peut se concevoir qu'à partir du moment où on place effectivement l'homme au cœur de la création et l'artiste au cœur de son œuvre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui naît dès la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc c'est comme ça aussi que cette période est déjà en partie
romantique. Gérard Petit, c'est une exploration de l'humain dans toutes ses humeurs, dans toutes ses passions, dans tous ses excès. C'est passionnant, cet aspect exploration. On va le retrouver jusque chez Bataille, d'une certaine façon.
Parce que je trouve saisissant, et qui disparaît d'ailleurs un peu, parce qu'on parlait de Greuze et de la dimension charnelle, il y a une dimension charnelle très forte dans cette œuvre-là, qui est moins flagrante par la suite dans tout ce qu'il aura fait. Enfin, quand il est question de massacre, il y a quelque chose qui est toujours convoqué là, mais il y a une sorte de d'ultra-sensualité dans cette situation terrible de cruauté des damnés, enfin que je serais tenté d'appeler les damnés devant la barque. Et il y a ce petit détail aussi qu'on a évoqué tout à l'heure brièvement et qui me semble être quand même très intéressant en soi, c'est effectivement cet homme qui a déjà un bras sur la barque et qui empêche cette jeune femme, la seule présence féminine dans le tableau, d'y accéder ou de survivre. Et il y a quelque chose d'une forme de règlement de compte amoureux là-dedans. J'avais lu quelque part, il y a de ça un moment, qu'au moment où Delacroix a peint cette œuvre, il était dans une déception amoureuse. Alors, je me tourne vers l'historienne, puisque effectivement,
c'est alors là, dans la déception amoureuse, oui, à ce moment-là, il en a beaucoup, parce que c'est le jeune homme qui a pas mal de conquêtes. Mais c'est vrai que, pour rebondir sur le côté charnel, c'est quelque chose qu'on a encore beaucoup plus tard, dans l'enlèvement de Rebecca, hein, par exemple, qui est un tableau de la fin de la vie. Et c'est quelque chose qui intéressait ce rapport charnel, ce rapport aussi de tension, hein, qui intéressait beaucoup Baudelaire et qui intéressait beaucoup Cézanne. Hein. Cézanne aime beaucoup ce rapport-là. Et juste pour conclure, son tableau terrible qui est au Fitzwilliam à Cambridge, Le Viol, est un tableau qui est inspiré par les enlèvements et les corps à corps de Delacroix. Donc il y a un côté de terribilité, hein, chez Delacroix qui est très intéressant et qui est peut-être un peu gommé de notre temps. Il faudrait peut-être ressortir ce Delacroix-là aussi.
Alors il y aura beaucoup de choses encore à dire sur Delacroix, les autres barques dans le travail de Delacroix et bien, ouais, bien des choses qui sont ces épreuves qui appartiennent à cette terribilité magnifique qu'il a travaillé. Nous reparlerons de lui bientôt. Merci Dominique de Font-Réau, merci infiniment Gérald Petit.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé un célèbre tableau de Delacroix dont le titre exact va vous être donné par Dominique de Font-Réau.
Donc le titre au livret de salon, c'est « Dante et Virgile, conduits par Phlégias, traversent le lac qu'entourent les murailles de la ville infernale de Dité ».
Pour en parler, nous étions donc avec vous, Dominique de Font-Réau, et également avec l'artiste Gérald Petit. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr, grâce au travail de l'attaché d'émission et du site internet Sylvia Favre. Merci Sylvia. Lecture des textes, la magnifique voix du fameux Claude Aufort, à la technique Manuel Couturier, réalisation Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et Jean Deloisy. Et dans quelques instants,
Catherine Libère et Ville Monde.
Come before you go bed. Go until you come, babe. Come until you go bed. Go to come for me.